États-Unis, c'est assez marrant à voir sur les réseaux sociaux, ça a pas mal tourné. Et nous, l'heure tourne aussi, il est déjà 21h, on va rendre l'antenne pour laisser nos copains d'imaginaire vous présenter leur émission, et nous on se dit à la semaine prochaine.
Les gens étaient en nombre à guetter ma rechute. Nous n'étions que des ombres devant le même but. Dans les ruelles sombres et dans les bars à putes, au milieu des décombres et des bêtes en rut. Le jour où j'ai failli m'imaginer poète, je n'étais moi aussi après tout qu'une bête. Mais j'ai tenté le jeu et me suis entêté pour en toute fin de compte ne plus rien regretter. Le jour où j'ai failli détourner mon regard, c'était presque trop tard et pourtant j'ai tenu. Je me suis accroché à cet instant ténu. Je n'ai pas regretté de m'être un jour battu. Le jour où j'ai pleuré, je n'ai pas oublié, je m'en suis souvenu. C'était si surprenant, c'était tant incongru. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, je ne saurais même pas dire d'où ça m'était venu. Le jour où j'ai gagné, le jour où j'ai perdu.
Monsieur Roland Bolide allemand, 130 000. Travaille dans une banque du centre-ville et tu l'auras compris, le bureau de monsieur n'est pas au rez-de-chaussée, le bureau de monsieur est en hauteur. Costume sur mesure, 4 000, il en impose dans les couloirs parfaitement corporate.
Vous êtes à l'écoute d'Imaginaire sur le 101.5 de Radio G. On est ensemble jusqu'à 22h. Je suis tout seul dans le studio ce soir. Mais mes collègues m'ont enregistré des chroniques. On aura d'abord Karine qui a lu le dernier roman de Katie Stewart, La meilleure version de toi et autres impostures. Sébastien qui va nous raconter son petit tour en Belgique où il a visité une bibliothèque privée de livres-jeux. Et puis on va enfin diffuser l'interview de Christelle Davos qu'on avait enregistrée aux Utopiales. Dernière, on commence tout de suite avec le retour de Boards of Canada. Nouvel album après 13 ans d'attente pour les fans. Inferno. In the Labyrinth of Blood. les Boards of Canada qui samplaient des dialogues extraits du documentaire Angel Death, documentaire sur la drogue de 1979, super flippant qu'on peut voir sur YouTube. On passe à la chronique de Karine. Ah non, c'est Sébastien. Petit changement de programme.
Commune d'Anderlecht, une des banlieues de Bruxelles où j'ai eu l'opportunité de séjourner chez Gilles Junio, un collègue rédacteur du MOOC Le Dé du Chaos, dont d'ores et déjà vous pouvez vous procurer le deuxième numéro sur commande à partir du site Le Plumier des Chimères. Alors pour faire bref, dans Le Dé du Chaos, eh bien vous avez deux aventures jouables autour des 200 sections. Mais je vous en reparlerai cet été, en la compagnie de ce cher Gilles Junio, parce qu'il en a écrit une des deux aventures jouables du deuxième numéro Le Dé du Chaos, L'Ombre. Alors pourquoi je vous reparle là de Gilles Junio? C'est qu'en fait, il est à l'origine d'un projet que je soutiens. C'est d'ouvrir sa demeure, le 360, à tous les collectionneurs aventuriers de passage à Bruxelles pour consulter ces immenses collections de livres-jeux à l'étage. Donc il y a une pièce au bureau. Vous voyez un peu, les amis, un peu la salle à la bibliothèque lorsque c'était ouvert pour faire des recherches au niveau des archives. Mais là, tout est à portée de main, à portée d'yeux. Et vous pouvez comme ça tomber sur des collections, comme ça a été le cas pour moi, des collections tombées dans l'oubli. Et ça vous permet de les découvrir. Et il y a de tout. Hein. Ça couvre vraiment, même jusqu'à la littérature québécoise interactive. Et j'aurai la chance, les amis, d'avoir Guillaume Pelletier, auteur de La Cité des Brumes, primé au prix du livre-jeu 2025, au téléphone le 7 juillet. Et Gilles, d'ailleurs, est très fan de cette Cité des Brumes. Et vraiment, le temps que j'ai passé au 360 permet également, non pas que de consulter, de jouquiner à différentes œuvres interactives, on est dans une pièce, au calme, mais aussi de faire la rencontre d'auteurs, de concepteurs de jeux. J'ai fait la rencontre de l'auteur belge des chroniques d'Amalron, Rémi de Konik, une personne vraiment des plus passionnantes, qui est à l'origine d'un système de jeu, le système Imparis, des plus originaux, mais je vous en reparlerai aussi lors de la saison à venir, donc la nouvelle saison radiophonique d'Imaginaire. Mais pour vous dire que n'hésitez pas une seule seconde, Gilles Junio, que vous pouvez joindre sur sa chaîne YouTube, le 360, qui a également un profil Facebook, est vraiment une personne des plus accueillantes. Il a une connaissance quasi encyclopédique sur les livres-jeux, un amour de la littérature interactive, et véritablement, on gagne en expérience, en connaissance donc de la littérature interactive dans son 360, qui est un projet que j'espère pérenne, que vous pouvez soutenir, voilà, à la hauteur de vos moyens. Tout est expliqué sur sa chaîne YouTube Gilles Junio le 360. C'est vraiment original que d'avoir comme une mini bibliothèque accessible gratuitement. Bon, il n'y a pas de prêt de livres-jeux parce qu'il y a quand même des pièces très rares, mais vous avez vraiment la possibilité, les amis, donc, de prendre n'importe quel ouvrage dans la demeure, dans la pièce bureau qui est dédiée, et pour vous faire une opinion, voilà, comme moi, sur des collections que je n'aurais pas forcément été achetées en occasion. Donc là aussi, ça a un avantage. Donc, n'hésitez pas, véritablement, les amis, à passer au 360 en Belgique. En plus, la Belgique est une terre des plus cools, bah comme Gilles. Et donc, c'est un projet dont je vais vous reparler avec l'ami Gilles Junio par la suite, pour qu'il puisse mieux vous exposer les évolutions à venir, parce qu'il y a un site web qui se met en place avec tout le référencement des œuvres et des éditions, des multiples éditions même de certaines œuvres. Souvenez-vous du Sorcier de la Montagne de Feu, qui a lancé la mode véritablement des livres dont vous êtes le héros en France dans les années 80, début des années 80, et il y en a eu des paquets d'éditions rien que françaises. Voilà les amis, donc, pour cet aperçu du 360 et de la personne de Gilles Junio, que nous retrouverons avec plaisir au téléphone, moi-même et Romain, au cours de l'été ou de la rentrée à venir de la nouvelle saison radiophonique d'Imaginaire. Everything I lost, but baby, you're all.
De Seb dans l'imaginaire, c'était Oliver Tree, décédé ce week-end dans un crash d'hélicoptère. On va continuer l'émission avec la chronique de Karine.
Je vais vous présenter La meilleure version de toi et autres impostures de Katie Stewart, publiée aux éditions Quater. Katie Stewart nous immerge dans un futur proche où il est recommandé de se fondre dans la masse et ne pas exposer ses différences. Pour limiter ce poids que pourrait être une différence physique et ou mentale, et donc être considéré en bonne santé, tout est encadré, et ce, dès la naissance. La population est même incitée à dénoncer les comportements déviants, ainsi que toute faculté ou incapacité hors du commun. Le maître mot, ressembler à tout prix aux autres. Vera est différente. Elle a la capacité de percevoir les émotions des autres. Elle est hypersensible. Elle n'aurait donc pas dû naître. Sauf qu'en plus de cela, elle a un père qu'elle n'a jamais connu et une mère qui ne veut pas répondre à ses interrogations. Cela va la pousser à se poser des questions sur elle, sur ce père disparu. Et suite à la perte de sa mère, elle va être d'autant plus en quête de trouver des réponses sur son passé par elle-même, en enquêtant en tant que journaliste autour de l'imposture. On va donc retracer avec elle sa vie en partant de son enfance, son attitude à l'école, ses rendez-vous avec une psychologue et ses entretiens journalistiques. On retrace donc à la fois son parcours, sa vie d'hypersensible et d'hyperempathique, ainsi que sa volonté d'avoir des réponses quant à la disparition de son père. Et également, on va découvrir d'autres histoires à travers cette enquête. Avec la meilleure version de toi et autre imposture, Katie Stewart dénonce certains travers de notre propre société, notamment tout le contrôle qu'établit une société pour, soi-disant, la sécurité de tous et toutes. Elle interroge notre propre place dans celle-ci. À force de vouloir s'intégrer, on porte souvent un masque pour rentrer dans le moule et être accepté. Elle met en lumière ce que tout ça crée en nous, la remise en question, le manque d'amour, notre vécu, elle nous pousse à réfléchir sur l'impact de notre enfance. Avec le personnage de Vera, Katie Stewart nous questionne sur nous et notre propre manière de fonctionner. Et elle y arrive avec brio, en posant une critique sociale en même temps. Un véritable bijou de réflexion profonde sur soi, et sur la société dans laquelle on vit, qui n'est pas très éloignée de ce que nous propose Katie Stewart dans son roman. Katie Stewart est autrice de romans, d'essais, de nouvelles et de poèmes. Elle est également présidente du réseau Université de la Pluralité, ainsi que docteur en psychologie et psychologue clinicienne. Je ne peux que vous conseiller la lecture de La meilleure version de toi et autres impostures, ainsi que l'ensemble de ses écrits. Je vous laisse avec Run du groupe Scald sur Radio G. Svart of
Run de Skald version Intimate. Et puis on va retourner aux dernières Utopiales. Pierre-Marie avait interviewé Christelle Dabos à la Cité des Congrès de Nantes.
Quatrième jour des Utopiales pour l'équipe Imaginaire et nous avons l'incroyable honneur d'être en présence de la guest star Christelle Dabos. Prix Utopial Jeunesse cette année. Bon, c'est pas une surprise puisque ça a été annoncé il y a quasiment une semaine. C'est un plaisir de te voir sur la scène pour en parler. Christelle, tu es mondialement connue par ta série des Passe-Miroirs. Premier tome sorti en 2013, quatrième tome sorti en 2019. 6 ans de ta vie pour cette épopée. Est-ce que tu avais, quand tu as sorti ton manuscrit la première fois, quand tu cherchais ton éditeur, est-ce que tu avais imaginé que ça prendrait une part aussi importante de ta vie?
Alors, c'est même un peu plus que cela, même, puisque la Passe-Miroirs, j'ai commencé à l'écrire en 2007. Et non, je ne m'attendais absolument pas à tout ce qui allait suivre. D'ailleurs, à la base, je ne souhaitais pas être publiée. Ça me faisait royalement peur. Moi, j'étais très bien dans ma petite zone de confort et de cocon. J'écrivais pour moi et pour quelques personnes que je connaissais sur Internet. C'était sur la plateforme Plume d'Argent qui, depuis hier, n'existe plus. Et c'était un petit coin de web avec une trentaine, quarantaine de membres. Depuis, j'en ai tellement parlé que ça s'est développé. On était à plus de 8000 membres sur la fin. Mais voilà, c'était des personnes que je connaissais, avec qui je discutais, dont je connaissais les histoires, c'était connu, c'était rassurant. Donc, être édité, non, je ne souhaitais pas. Et il y a, en fait, c'est grâce à Plume d'Argent que j'ai entendu parler du concours organisé par Gallimard Jeunesse l'été 2012, et c'est par Plume d'Argent que j'ai été fortement incitée à participer. Moi, je ne voulais vraiment pas. Alors ensuite, il a fallu que j'analyse un peu, mais pourquoi non? Et c'est parce que j'avais peur. J'avais extrêmement peur du regard des autres. J'avais peur de décevoir. D'ailleurs, j'en parle au passé, mais c'est toujours un petit peu inscrit. Mais voilà, à cette époque, c'était de la terreur. Genre. Et finalement, je me suis laissée convaincre. Mes amis de Plume d'Argent, j'ai eu peut-être un petit peu de chantage. Il y en a une qui a carrément menacé d'envoyer le manuscrit à ma place si je choisissais de ne pas le faire. Et la veille de la clôture du concours, je me suis dit, bon, allez, j'en ai discuté avec mon conjoint, lui ne comprenait pas. Il me dit, mais pourquoi tu ne fais pas? Le concours, il est gratuit. T'as rien à imprimer, ton livre, il est fait. Qu'est-ce qui t'en empêche? Donc, la réponse, la peur. Et c'est parce qu'on a peur de quelque chose qu'il faut s'y frotter et y aller. Donc, j'ai envoyé mon manuscrit, un peu lâchement, parce que je me suis dit, de toute manière, ils ne liront pas les derniers.
Ce qui m'interroge le plus dans ta réponse, c'est que tu parles d'avoir envoyé ton manuscrit, ton premier tome. On est en 2012. 3 autres tomes ont suivi. À quel point est-ce que le succès retentissant qui a accueilli ce premier tome a engendré les 3 qui ont suivi, ou est-ce que tu avais déjà l'idée des brouillons, des choses comme ça?
Alors, à cette époque-là, en fait, j'avais déjà pratiquement 4 tomes. Ils étaient déjà, pour ainsi dire, faits. C'est juste que j'ai décidé de tout recommencer depuis le début et de ne pas garder une seule phrase. Sinon, ce serait beaucoup trop facile. Donc, en fait, en vrai, je suis arrivée à la fin de l'histoire et je me suis dit « Non, c'est pas l'histoire que j'avais envie de raconter ». Donc, j'ai tout redémarré. C'est pour ça que j'avais fait une première édition revisitée du premier tome. C'est celle-là que j'ai envoyée à Gallimard et qui a été retenue. Mais après, du coup, quand j'ai signé le contrat avec eux pour le premier et qu'on s'est lancé pour la suite, je me suis dit, bon, moi, je sais plus ou moins où je vais. Mais en fait, j'ai tout changé au fur et à mesure. Je me suis dit, non, il faut que j'arrête de me raccrocher à l'ancienne version. C'est plus la bonne histoire. Il faut que je reparte sur du neuf. Et comme si c'était une nouvelle, complètement nouvelle histoire. Et donc, c'était une aventure, quoi. Mais je savais quand même que la structure serait probablement la même. Juste, je précise qu'à la base, j'ai failli faire 3 tomes. Pas pour des raisons que j'avais pas assez racontées ou quoi que ce soit. C'est juste que j'étais tellement terrifiée. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je m'imposerais 4 tomes alors que déjà le deuxième, c'était une torture. Tellement j'étais vraiment une boule de peur à l'époque. Hein. Et je me mettais une pression phénoménale. Je me suis dit, bon, 2, c'est déjà dur. Je vais peut-être m'arrêter à 3. Et finalement, mon histoire avait tellement à dire que je me suis rendu l'évidence. Je me suis dit non, il faut vraiment que je fasse ces 4 tomes.
Je parle ici de la peur de l'écriture, de te frotter à ça, créer une nouvelle histoire, recommencer à zéro. Comment est-ce que tu as vécu le travail éditorial qu'il y a eu, qui t'a accompagné pendant les tomes suivants? Et le premier tome aussi d'ailleurs, de fait.
Alors le travail éditorial, lui, c'est très bien vécu. Là, j'ai vraiment pas eu de... À ce niveau-là, j'avais pas trop de mal. Sachant que Gallimard Jeunesse est un éditeur, en tout cas avec moi, très peu interventionniste. Par exemple, le premier tome, à part quelques mots, les noms des personnages, de certains personnages, ils m'ont dit attention, si tu veux donner une petite ambiance slave comme tu l'as fait, il faut que les noms collent. Ils m'ont juste demandé de changer peut-être quelques noms, c'était moi qui devais choisir. et de rajouter un épilogue. Donc, c'était pas bien méchant, quoi. Pour les autres tomes, ça a pratiquement toujours été pareil. Donc, eux, ils me proposent, c'est moi qui décide ce que je souhaite changer ou pas en fonction des premiers retours qu'on me fait. Et vraiment, j'ai jamais eu matière à me vexer de quoi que ce soit. Ouais. Donc, à ce niveau-là, il n'y avait aucun problème. Mais c'était plutôt, je pense, le rapport au lecteur. C'est ça qui, c'est là où pour moi résidait ma plus grande peur, parce que c'est ce que je ne connaissais pas. Les lecteurs, pour moi, c'était une sorte de foule anonyme qui se penchait par-dessus mon épaule quand j'étais au clavier en train d'écrire mon histoire. Et je m'en suis fait une montagne.
Et cette foule dont tu parles, elle t'a accompagné du coup jusqu'en 2019 pour accueillir les sorties des romans. Et puis depuis 2019, qui revient, on l'a vu hier et aujourd'hui, la foule qui est là pour attendre la dédicace de Christelle Dabos. Ils ne t'ont jamais lâché et ils ont toujours réservé un accueil globalement bienveillant à ce roman. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 5 ans qui ont suivi la fin du 4e tome du Passe-Mémoire ? Comment est-ce que tu as vécu cette relation à la fois distancée, sans actualité, mais encore extrêmement présente ?
Alors, je vais dire 2 choses. La première, justement, pour revenir sur... effectivement, là, ça s'est particulièrement ressenti aux Utopiales avec tout le monde qu'il y avait. C'est de voir comment j'ai basculé d'une situation où j'avais tout le temps peur à finalement cette confrontation avec le regard de l'autre. Je me suis dit, mais en fait, les lecteurs qu'on fait rencontre en dédicace, mais ils sont incroyables. Ils sont bienveillants. En plus, bah, j'ai presque envie de dire, il y a de l'amour. Il y a vraiment une relation d'amour qui est extrêmement forte. Et pour moi, ça a contribué énormément. En fait, la peur, elle a fini par lâcher. D'ailleurs, j'ai croisé quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'avait vu à mon tout premier salon et qui m'avait dit que j'avais vraiment l'air terrifié. Et d'ailleurs, ma première dédicace, je tremblais. Hein. Et elle m'a dit, mais c'est incroyable, la métamorphose. Elle ne me reconnaissait plus parce que, effectivement, moi-même, je me suis dit, ma peur, j'ai oublié en cours de route. Et à force de faire des rencontres, à force de les rencontrer, ces autres-là, et de voir ce qu'il y avait au-delà du globe oculaire sur lequel je me faisais une fixation, je me suis dit, mais en fait, c'est beau, c'est juste beau, ces rencontres-là. Et maintenant, je suis même en demande de ça. Donc voilà, ça, c'était pour revenir là-dessus. Et donc là, par rapport à la question, c'était sur l'après Passe-Miroir.
Oui.
Alors en fait, pour moi, il n'y a jamais eu d'interruption, parce que moi, je n'ai jamais cessé d'écrire à ce moment-là. En fait, au lendemain de la sortie en librairie de la Passe-Miroir, j'écrivais « Nous ». C'est à ce moment-là que c'est écrit le tout début. Il y a eu le Covid, le confinement, le monde s'est arrêté, mais alors pas du tout pour moi. Moi, intérieurement, ça a beaucoup écrit. J'ai écrit... En fait, « Nous », à la base, c'était 2 tomes. Finalement, on les a fusionnés en un, mais c'est 2 tomes, donc je les ai écrits pendant cette période. Et entre les 2 tomes, j'ai écrit le roman Ici et seulement ici. Et entre différentes choses, j'ai aussi écrit Et l'imagination prend feu aux éditions Le Robert. Donc là, c'est plutôt un essai sur les coulisses d'écriture. Donc pour moi, c'était intérieurement très intense. Je ne me suis pas ennuyée une seconde.
J'ai aucun doute qu'à l'intérieur de ta tête, ça poisonne. C'était plutôt sur la relation qu'il y avait avec ce public. Mais comme tu l'as dit, il y avait Ici et seulement ici qui est donc sorti entre-temps, mais qui a eu nettement moins de retombées ou de retours médiatiques que Nous et que le Passe-Miroir. Comment est-ce que tu expliques justement ce fait un petit peu de passage invisibilisé ? On ne peut pas vraiment dire ça parce que ça reste un succès. On parle toujours de Christelle Dabos quand même. Mais ce titre-là a moins eu d'éclat. Comment est-ce que tu peux l'analyser ?
Alors, l'analyser, c'est compliqué parce que je ne contrôle pas ce qui se passe dans la tête des personnes. Mais alors déjà, je pense que beaucoup étaient restés très attachés à l'univers de la Passe-Miroir et beaucoup attendaient le 5e tome. Bon, je n'ai jamais parlé, je n'ai jamais évoqué d'en faire un, mais je crois que malgré tout, certains n'avaient pas fait le deuil de, ou alors que je revienne peut-être dans l'univers, tout simplement. Et ils ne m'ont pas du tout attendu sur quelque chose de si à ce point différent. Ici et seulement ici, je crois que c'est mon éditeur qui avait dit que s'il n'était pas au courant que c'était moi, jamais il n'aurait pensé que c'était la même personne qui avait écrit La Passe-Miroir. Donc là, j'ai fait un virage complet. Et pour moi, c'était une évidence. Mais je me suis rendu compte que ça l'était un peu moins pour les lecteurs. Et après coup, j'ai relu les passages de Ici et seulement ici. Et autant au moment où je l'avais écrit, c'était joyeux. C'était jubilatoire, c'était libérateur. Et quand je l'ai relu, j'ai fait « Ah ouais, quand même, il est dur hein, ce livre. » Même pour moi, finalement, avec du recul. Et je me suis aussi fait la réflexion que moi, il a fallu un temps pour décrire ce livre-là. J'avais déjà essayé d'écrire une histoire sur le collège avec les mêmes thématiques avant La Passe-Miroir, j'avais pas réussi. Et je me suis dit, si pour moi il y avait un temps pour le lire, je peux comprendre qu'il y a un temps pour le lire aussi pour les lecteurs. Et en discutant avec beaucoup d'entre eux, il y en a certains pour qui le collège est très mal passé et du coup qui ont appréhension à l'idée de retourner dans la cour du collège avec ils savent que le livre est assez dur par rapport à ça. Donc je comprends.
On va parler de nous, puisque c'est un petit peu le sujet brûlant d'actualité des Utopiales. Tu as été ovationné lorsque le nom est sorti hier soir à la remise des prix. On s'était croisés il y a quelque temps, et je t'avais demandé, à l'époque, pourquoi écrire une dystopie? Et j'adorais la réponse que tu m'avais dit à ce moment-là. Est-ce que tu peux me redire pourquoi est-ce que tu as écrit une dystopie avec nous?
Bah, je vais probablement répondre exactement la même chose, à savoir que je ne savais pas que c'était une dystopie. Voilà. Donc, mais en fait, ça a été ça, le point commun avec tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. La passe miroir, je ne savais pas que c'était de la fantasy. C'est après coup, lorsque des amis l'ont lu, ils m'ont dit, mais tu sais, voilà, c'est de la fantasy, steampunk. J'ai dit, oula, c'est quoi tous ces termes? Pour ici et seulement ici, c'était pareil. Quelle étiquette poser à ce livre-là? Alors finalement, on s'est orienté sur réalisme magique. Alors, normalement, c'est typiquement sud-américain, mais c'est ce qui se rapprochait le plus en termes d'ambiance. Et pour nous, bah, du coup, voilà, nous, je ne savais pas, et c'est au moment où Gallimard Jeunesse l'a dit, qu'après coup, j'ai réfléchi, je dis, ouais, non, mais c'est vrai que ce que je sais de la dystopie, bah, finalement, ça a l'air de cocher un peu des cases.
Nous, c'est donc un roman destiné à jeunesse young adulte sur la vie en collectivité et les choix individuels, ou plutôt les manques de choix individuels. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Alors, ce que je peux dire, c'est que la jeunesse de nous, elle a commencé, mais bien avant même que je sois publié, avant que, je crois même avant l'époque où je me suis mise à l'écriture. C'était l'époque où j'étais étudiante à la faculté de Nice et que j'ai senti extrêmement heurtée par l'individualisme qui régnait autour de moi. Et je me rappelle, mes tout débuts à l'université, j'étais perdue, je demandais mon chemin, personne ne me répondait. En classe, je pouvais pas, si j'étais perdue au moment du cours, si je voulais regarder, la personne mettait la main pour que je puisse pas lire ses notes. Les gens qui se levaient pas dans le bus parce qu'il y avait des personnes visiblement en difficulté. Je me suis dit, mais waouh, mais ce monde, il y a un problème, quoi. Et je me suis dit, ça me manque cruellement de solidarité, de lien. Et j'avais décidé à cette époque de fonder un ordre de chevalerie. Pour remédier à la situation, c'était très ambitieux. J'ai récolté 2 membres sur Internet. C'était le MSN Messenger de l'époque. Et ça s'est arrêté là. Mais je pense que ça fait son chemin de façon souterraine parce que tout d'un coup, j'ai eu ce monde qui est apparu avec cette humanité ultra connectée. Et là, quand je dis connectée, c'est pas au sens Internet du terme, c'est vraiment presque spirituel. C'est le nous, c'est cette entité collective qui va propulser tous les humains à travers leur instinct, qui va leur dire « toi, tu devrais être à tel endroit, tel moment pour pouvoir aider telle personne ». C'est vraiment une sorte de force irrépressible qui va pousser chacun à faire le bien. Et donc, c'est une humanité qui, par définition, est ultra solidaire, mais qui n'a pas le choix. Et là, toute la question étant, si on fait le bien parce qu'on n'a pas le choix, est-ce qu'on peut encore parler de bien? Voilà, s'il n'y a pas de liberté.
Comme tu l'as dit, c'est une dystopie, c'est-à-dire que d'emblée, tu places tes personnages dans cet univers qui est quasiment une utopie et sur lequel l'individu n'existe plus et la bienveillance n'est plus qu'une idée qu'on applique sans le vouloir. Il n'y a plus cette notion de bienveillance. Ça pose quand même une question de, est-ce qu'on peut être gentil avec tout le monde? Est-ce que tous les actes, est-ce que toutes les vies méritent la même gentillesse?
Alors moi, tout ce que je peux dire, c'est que je suis toujours partie du principe. Comme je disais, quand j'étais jeune, j'étais un peu heurtée par cet individualisme et j'avais une amie qui me dit « mais moi, je me protège parce que je sais que personne ne me fera de cadeau dans la vie et je décide par définition de me méfier de tout le monde ». Et je me suis dit « bon, bah, moi, je peux pas ». Je sais que ça dissonne trop intérieurement. Je dis « je pars du principe que n'importe quelle personne, tant que je la connais pas, je lui donne ma confiance d'office ». Jusqu'à ce qu'elle me donne une raison de lui retirer ma confiance. Donc je pars du principe que tant que la personne ne m'a personnellement pas donné de raison de la remettre en question, je serai là si je vois qu'elle est en difficulté. Mais je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question.
Ça répond à la question dans le sens où, là, contrairement à ton roman, c'est un choix personnel que tu fais à un moment donné, à un instant T, et tu n'attends pas de retour. C'est un petit peu l'ambivalence de ton monde utopique où, par définition, on sait que les autres seront bienveillants avec nous et c'est pour ça qu'on doit être bienveillant. Or, le principe de la bienveillance, c'est de ne rien attendre des autres. Est-ce que forcément la vie en communauté, c'est un marchandage? C'est on ne donne que ce qu'on reçoit?
Puis déjà, j'ai envie presque de nuancer mais ma propre réponse. Hein, parce que est-ce que, en fait, si on réfléchit bien dans nous, donc les gens n'ont pas le choix. Mais est-ce que on a vraiment le choix, nous? Parce que je me dis, quand je fais le bien, est-ce que je le fais vraiment parfois désintéressé ou parce que c'est un programme en moi qui s'active, j'ai été éduquée de cette façon, que j'ai des valeurs qu'on m'a transmises par à travers mon éducation, que ça peut être aussi le mécanisme de peur dont on parlait tout à l'heure, la peur de déplaire, la peur de même vis-à-vis de sa propre image, de pouvoir bien me regarder dans le miroir. Et finalement, est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'on peut dire jusqu'à quel point se désintéresser? Moi, j'en doute. Moi-même, je me dis, quand je fais ça, je suis pas sûre d'être désintéressée. Donc, j'apporte déjà une nuance par rapport à ça.
Le temps avance, on va passer aux questionnaires de Proust avant de pouvoir te laisser à tes occupations. Alors, il faut savoir donc que l'association Imaginaire est une association qui a tous les moyens possibles imaginables. Batman et Iron Man nous subventionnent. Demain, on a la possibilité de t'envoyer dans la civilisation de ton choix, quelle que soit l'époque, quelle que soit sa réalité. Où est-ce que tu aimerais vivre?
Bon, alors je pense que c'est l'adolescente en moi qui va répondre, l'Atlantide. J'avais lu des livres comme quoi c'était une civilisation mais vraiment idéale, hein, qui avait vraiment un savoir-faire incroyable, qui avait un système politique incroyable, et j'ai fantasmé là-dessus, mais toute mon adolescence, je me suis dit, ah, si je pouvais remonter le temps, c'est là que je voudrais aller. Bon, maintenant, je pense qu'avec le recul, j'irais me renseigner un petit peu avant. Hein.
On va rester avec l'adolescente que tu as été, qui se balade à l'Atlantide. Tu y emmènes ton animal de compagnie, ou ton compagnon, je ne sais pas à quel point il est intelligent, cette personne qui t'accompagne, mais qui est-ce que tu aimerais pouvoir emmener là-bas?
C'est cruel, alors si je dois choisir entre l'animal et le compagnon, non, c'est beaucoup trop cruel. Alors Thibaut ne le prend absolument pas personnellement, je t'aime de tout mon cœur, mais tu sais que tu ferais la même réponse que moi, je prendrais des chats.
Tout le monde prend toujours les chats, je ne comprends pas pourquoi. Dans ton bagage, pour y aller, tu ramènes ton nécessaire, pas de survie, mais en tout cas de vie quotidienne. Et comme tout auteur qui se respecte, tu y vas avec un livre qui n'a jamais été écrit. Quel livre est-ce que tu peux imaginer emmener partout avec toi?
Alors, on parle d'un livre qui n'a jamais été écrit. Et je dois maintenant inventer le livre qui n'a jamais été écrit.
Une suite ou...
Mais c'est absolument abominable.
Je sais, merci.
Alors, ceci étant, non, techniquement, il est déjà, j'allais dire que j'aurais bien aimé que ce soit le dernier volume de la trilogie de la Croisée des Mondes, la deuxième trilogie de la Croisée des Mondes, mais apparemment, il est écrit. C'est juste qu'il n'est pas encore traduit en français. Donc, est-ce que ça compte? Ce serait celui-là. Je veux vraiment connaître la fin de cette histoire.
Le dernier tome de la trilogie de Philippe Pullman, deuxième série de la Croisée des Mondes. On arrive à la dernière question. C'est la question la plus importante. Quelle musique souhaites-tu?
Est-ce que je peux rester sur la thématique de la Croisée des Mondes? Et j'ai adoré la musique, il y en a deux parce qu'il y a eu le film et la série Is Dark Materials, et les deux musiques étaient incroyables, mais je vais choisir le générique de Is Dark Materials qui donne la chair de poule.
Merci beaucoup Christelle, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi.
Un grand merci.
C'est l'écossais Lorne Balfe qui signe la BO de cette série anglaise, His Dark Materials, à la Croisée des Mondes. Et on va se quitter, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines, on ne prend pas de vacances, imaginaire, sur le 101.5. Et on termine avec un son que j'avais envie d'entendre, celui de la pluie qui tombe. Un morceau d'Elminster, donc Elminster, célèbre mage. Inventé par Ed Greenwood pour les royaumes oubliés. On le trouve dans les romans comme personnage à croiser dans le jeu de rôle ou les jeux vidéo Baldur's Gate. Et donc ce sera le titre Death of Fafnir, aussi un célèbre dragon de la mythologie. À bientôt.
qu'on colle